Les acteurs de l'actualité sont sur Europe 1, il est 7h44. François Geffrier, vous recevez à présent Nicolas Normand, ambassadeur de France au Mali de 2002 à 2006.
Bonjour Nicolas Normand.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur Europe 1. La France a 5100 soldats dans la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Et pourtant, il y a eu ce coup d'État au Mali. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas eu de volonté de l'empêcher ou tout simplement qu'on ne l'a pas vu venir?
Si, on l'a vu venir certainement parce qu'on voyait bien ces dernières semaines une détérioration très grave de la situation politique et sociale à Bamako, alors qu'il y a déjà une crise multidimensionnelle dans le reste du pays. Et en fait, il y a eu une tentative de médiation internationale par l'Organisation régionale d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la CDAO. Mmh. Cette tentative de médiation a complètement échoué parce que l'opposition s'est radicalisée et exigeait la démission du président. Et le président qu'on appelle Ibeka,
Ibrahim Boubacar Keïta, oui.
Voilà, évidemment, ne voulait pas démissionner sous la pression d'une émeute ou de manifestations de rue. Mmh. Et il n'était pas possible de sortir de ce dilemme démission, confrontation, parce que les autres mesures que proposait notamment le président, un gouvernement d'union nationale, une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau Conseil constitutionnel, tout ceci ne suffisait pas. Il y a eu une focalisation sur la démission du président. Alors, dans les manifestations au mois de juillet, il y a eu des violences et il y a eu aussi un débordement des services d'ordre qui ont malheureusement tiré à balles réelles et qui ont tué au moins 10 manifestants. Peut-être 25.
Mais donc vous me dites, on l'a vu venir, ce coup d'État.
Oui, on l'a vu venir. On ne pouvait pas l'empêcher de toute façon, mais on l'a vu venir parce que...
La France sait parfois donner des coups de main quand il faut, comme en Côte d'Ivoire en 2011, pour faire partir Laurent Gbagbo, par exemple.
Une ingérence aurait été tout à fait impossible et absolument inacceptable pour la population et même pour les autorités qui ne le demandaient absolument pas. Donc on n'était pas du tout dans ce contexte. Alors en fait, on était dans une situation de blocage, d'impasse politique, de dysfonctionnement de la démocratie et de vide. Et par conséquent, il y avait un danger que la situation dégénère vers le chaos et l'anarchie et que peut-être les djihadistes en profitent. Et c'est dans ce contexte très particulier que les militaires sont intervenus parce qu'ils le disent eux-mêmes, et je crois que c'est vrai, en fait, ils voulaient éviter le chaos et ils voulaient éviter un dysfonctionnement et une discontinuité de l'État qui aurait été, dans le contexte malien, extrêmement dangereuse.
Et alors justement, cette situation, elle change quoi là tout de suite pour ces 5000 soldats français dans le Sahel qui sont là contre les groupes djihadistes, vous en parliez. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête toutes les opérations? On reste dans les bases à attendre ce qui va se passer? Parce que là, il faut coopérer avec des militaires putschistes quand même.
Alors, je crois que pour l'instant, Barkhane, c'est-à-dire cette opération militaire française, continue à lutter contre les djihadistes. Il faut savoir surtout que les putschistes, les 5 colonels qui sont apparus à la télévision malienne, ont déclaré leur attachement à Barkhane, leur attachement aux accords internationaux, leur attachement à la force du G5 Sahel, à la force Takuba, et surtout, ils ont annoncé le retour à l'ordre constitutionnel. Ils veulent une transition politique civile, c'est-à-dire ils veulent très rapidement redonner le pouvoir aux civils. Ils ont fait un appel aux partis politiques et à la société civile malienne.
Mais ce qui est toujours étonnant après un coup d'État, d'ailleurs.
Alors, c'est un coup d'État, mais un coup d'État sans effusion de sang, et où le président de la République a fait quand même un discours à la télévision dans lequel il a annoncé sa démission. Alors il a dit qu'il n'avait guère le choix.
Ah, c'est ça,
il ne voulait pas que le sang coule. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné quand même instruction au reste de l'armée de suivre finalement les putschistes.
Mais
ça revient à ça.
Quand on vous entend, on a l'impression que tout va bien et que c'est une sympathique bande de putschistes qui démet un président qui était quand même élu démocratiquement. Est-ce que du côté de la population, on a vu des scènes de fraternisation, du côté de la population, est-ce que ce coup d'État peut être bien perçu, les intentions des militaires?
Alors, apparemment, ce coup d'État est bien perçu par la population. Je crois que c'est un élément important. Il est certain que ce coup d'État empêche, je le disais, une détérioration encore plus grave. Et ces militaires ont fait quand même une déclaration extrêmement modérée et veulent transmettre le plus vite possible le pouvoir aux civils. Donc, vraiment, je crois qu'il faut les prendre au mot. Bien entendu, il faut condamner le principe d'un coup d'État, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il n'y avait plus d'État et que les militaires assurent de nouveau la possibilité de restaurer l'État et de remettre en place la démocratie.
Pour en revenir à la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région, est-ce que ce coup d'État, ça peut signer le début d'une lutte plus ferme ou pour l'instant ça ne change rien?
Alors, je je crois que c'est une mauvaise nouvelle, je pense, pour les djihadistes, parce que les djihadistes espéraient que finalement un pourrissement de la situation à Bamako, qui leur aurait peut-être permis de prendre... Ça aurait certainement démobilisé l'armée, n'est-ce pas? Si la démocratie et le système politique s'arrêtent de fonctionner, est complètement bloqué, les militaires auraient été démobilisés en faveur donc des djihadistes. Là, les militaires reprennent le dessus. C'est vrai que le Mali est dans un cas d'urgence absolue. Ça a un certain sens que les militaires empêchent le régime de dégénérer complètement vers l'anarchie et le chaos. Et en plus, ils veulent vraiment rendre le pouvoir aux civils, et je crois qu'ils vont le faire. Ce ne sont pas des sous-officiers, comme on avait vu en 2012 dans le précédent coup d'État. Ce sont des colonels, des gens structurés, qui ont annoncé un programme cohérent de retour à la démocratie avec des élections dans les délais les plus courts possibles. Alors, on va voir ce qui se passe. On peut toujours craindre que ce programme ne soit pas bien appliqué. Mais je crois que la France et la communauté internationale, après les condamnations d'usage d'un coup d'État, doivent tenir compte de cette réalité, de ces circonstances particulières, ne pas isoler le régime, ne pas le radicaliser, essayer de prendre discrètement contact avec eux et les encourager à appliquer ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire le rétablissement de la démocratie.
Et puis peut-être libérer aussi les personnes arrêtées, à commencer par le président et le Premier ministre. Une dernière question. Ce président, Ibrahim Boubacar Keïta, c'était un interlocuteur privilégié de la France. Il était même surnommé par certains de ses opposants le Français. Est-ce qu'aujourd'hui au Mali, c'est mal vu d'être réputé proche de Paris ?
Oui, c'est certain qu'au Mali, la politique française a été assez mal comprise. Il y a une certaine impopularité. C'était dû au fait qu'en 2013, on avait appuyé un mouvement séparatiste. C'était dû aussi au fait que Barkhane n'était pas parvenu à éliminer complètement les djihadistes et à contrôler tout à fait la situation, même si ça empêchait quand même les djihadistes de prendre les villes. Donc Barkhane avait un rôle très utile, mais qui n'était pas très bien compris de la population.
Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali. Vous êtes l'auteur du grand livre de l'Afrique aux éditions Erol, sorti cette année. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Et bonne journée.